Enfin, c'était en fait, ils avaient demandé, c'était avant la Rijks Academy, et ils venaient de terminer un diplôme avant la Rijks. Et en fait, ils étaient dans la gare d'Amsterdam et ils demandaient à des drogués, non mais des mecs vachement, vachement drogués, hein, ils demandaient à des drogués de se mettre contre un panneau en bois et de regarder la caméra fixement, et en échange, ils auraient un boc de bière. Bon, alors j'ai vu cette vidéo et c'est vrai que c'est quand même spécial. Et j'ai dit non, c'est pas possible, moi je peux pas, je peux pas. Et après, je l'ai revu une autre fois à la FIAC, parce que la galerie avait apporté. J'aurais dit de me la passer, et puis après, je l'ai renvoyé. J'ai dit non, non, c'est pas possible. Et finalement, j'ai réfléchi, j'ai vraiment réfléchi. Et en regardant ces gens, que je ne voulais pas. En fait, on ne veut pas regarder certaines personnes. On ne veut pas regarder des mendiants, on ne veut pas regarder des drogués, on veut pas. On veut ignorer tous ces gens-là. On veut pas les voir. Et finalement, comme ils te regardent comme ça, œil face à face, finalement, tu finis par t'habituer à eux, à ce qu'ils deviennent presque des copains, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé la galerie, j'ai dit, j'aimerais bien l'acheter. Et la galerie, au bout de 2 jours, m'a répondu, ah ben non, c'est pas possible, les artistes veulent garder l'épreuve pour eux. Ah, j'ai dit, vous pouvez pas me faire ça. J'ai attendu beaucoup de temps, c'est comme mon bébé maintenant, vous êtes en train de m'enlever mon bébé. Alors la galerie m'a dit, bah, écoute, envoie un message aux artistes en disant ce que tu viens de me dire. J'aurais envoyé un message, et une semaine après, la galerie m'a dit, il vous donne la vidéo. Formidable, hein, formidable. Et comment? Oui, enfin, ils me l'ont vendu, mais. Évidemment, évidemment. Non, mais ils ont autorisé. Et franchement, cette vidéo, quand je la vois, quand je la regarde, quand je regarde ces gens, c'est quand même, c'est incroyable. Hein.
On l'a prêté 2 fois à la Maison
Je suis
Rouge,
habitué, quoi.
Ouais.
Ah non, mais c'est parfait. On a envie de la voir.
Ah oui, alors je vais vous présenter la prochaine. Et Ayoun Kwan est une Coréenne que nous avons rencontrée au Frénois. Et on a acheté une œuvre d'elle, la première œuvre, on a acheté une histoire très. C'est très intéressant parce que c'était une Coréenne qui avait fait une vidéo de deux jumeaux africains dont le père pensait que les jumeaux c'était. Enfin, le père était un sorcier et il pensait que les jumeaux c'était très néfaste. C'était. Et donc, il y en a un qui a été. Disons, tué, et puis l'autre a voulu se réfugier en France, il a fait un dossier, et finalement, manque de preuves, il n'a pas eu asile. Bon, alors cette vidéo, c'est autre chose, elle parle d'un sujet brûlant en Corée, c'est la DMZ, la zone de séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et en fait, elle a fait ça en 3D, elle a fait cette vidéo en 3D. Et elle a interviewé un militaire sud-coréen qui faisait la zone, enfin qui faisait la zone. Alors vous verrez, il raconte son histoire. Et d'un côté, cette vidéo est très clinique. Elle est très clinique. C'est vraiment, vraiment très froid. Et en même temps, il y a ce soldat qui raconte sa vie et qui raconte surtout ses impressions. Et il y a la chaleur humaine. Donc il y a un contraste saisissant entre une œuvre qui est quand même assez froide et assez clinique, et en même temps cette confession, si on peut dire, de soldat qui est extrêmement humaine.
Et elle s'appelle 489 années, parce que c'est le temps qu'il faudrait pour déminer cette zone. Voilà. Et Ayoun Kwan n'a pas eu le droit d'y aller, donc c'est pour ça qu'elle a fait une vidéo toute virtuelle. Parce qu'elle n'a pas obtenu le permis. Voilà. C'est une très belle œuvre qui est en fait, que vous pouvez voir en réalité virtuelle avec un casque. Elle a été montrée au musée d'art moderne comme ça. Nous, on l'a comme ça parce qu'on n'a pas le casque. Mais c'est vrai que c'est aussi une expérience extraordinaire avec le casque. En fait, déjà comme ça, vous allez voir, c'est magnifique. Et très émouvant parce que c'est la peur de cet homme qui doit déminer, en fait.
C'est du coup deux propositions très différentes. Et d'après ce que vous en disiez, peut-être des techniques de vidéo, de manières de faire différentes. Quel est votre rapport, vous, en tant que collectionneur, aux techniques de la vidéo, tout ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, que vous connaissez ? Est-ce que vous êtes devenu un grand savant de la technique de la vidéo, ou c'est quelque chose dont vous êtes très éloigné et vous laissez ça à d'autres ?
En fait, on a, pour la technique, on a toujours suivi les conseils des musées, parce qu'en fait, on était en relation avec des musées qui s'occupaient de leur conservation de vidéos, etc. Donc, ils nous ont donné des conseils ou des tuyaux, etc. Mais depuis quelques années maintenant, on est aidé par l'ancien chef technicien du Frénois. Lui, il est quand même assez fort, il sait très bien ce qu'il faut faire, etc. La technique, la conservation, elle a évolué. C'est-à-dire que on est passé de l'analogue au digital. Le digital a été certainement une avancée. Et les disques durs, maintenant on conserve sur disque dur, et puis il y a d'autres moyens, par exemple le LTO, qui est une cassette ordinateur qui permet de conserver plus longtemps. LTO, ça veut dire Linear Tape Open. Et en fait, ça existe depuis 90, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas la capacité pour conserver beaucoup, c'est-à-dire que ça faisait pas beaucoup de gigas. Mais maintenant, on peut mettre une collection entière sur LTO. Mais le problème, c'est que la manipulation est très... Enfin, il y a beaucoup d'horaires, beaucoup d'heures de travail, et ça coûte assez cher au point de vue main-d'œuvre. Voilà, la vidéo évolue, c'est sûr, la qualité évolue, la durabilité évolue, et la vidéo a une chose, c'est que, enfin la vidéo, c'est très difficile d'appeler la vidéo, parce qu'en fait, c'est l'image en mouvement, et donc ce médium, si vous voulez, est un médium frontalier, c'est-à-dire que il évolue dans toutes les directions. La vidéo, elle va vers la performance, elle va vers le cinéma, elle va dans beaucoup de directions. C'est quelque chose de très complet. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce médium, parce qu'il est évolutif. Il est évolutif, et je veux évoluer avec un médium. Je trouve que c'est formidable de se développer en même temps qu'un médium se développe. Voilà, moi je trouve ça super. Et puis, il y a une autre chose qui m'avait beaucoup frappé, puis après je vous laisse la parole, parce que je ne peux pas parler tout le temps. Il y a, quand on était à la Maison Rouge, on entrait dans l'exposition, il y avait 25 vidéos, qui étaient très très bien présentées d'ailleurs, à tout point de vue. On entrait dans l'exposition, et c'était, en fait, on voyait des gens rire, pleurer, jouer, se battre. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. On avait l'impression d'être dans une cour de récréation d'une école, et de voir toute la vie autour de soi. Et quand on sortait de l'exposition, il y avait une espèce de silence de mort. Et on se disait, c'est quand même, la vidéo, c'est quand même quelque chose, c'est la vie, hein. Et c'est vraiment quelque chose de très vivant. Et c'est ce qui m'a accroché le plus à la vidéo, c'est de sentir par rapport à l'image fixe, par rapport à la photo, par rapport à la peinture. La vidéo, c'est vraiment, on est là, on vit, on est dans la vie. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Voilà.
Oui, c'est cette temporalité de la vidéo, c'est quelque chose d'assez génial, puisque c'est le médium qui a inventé la temporalité qui permettait le plus d'appréhender la réalité. Alors même si c'est une vidéo, c'est comme la photo, ça n'est jamais la réalité. Mais en tout cas, on se confrontait par petits shots comme ça à une possibilité de la réalité. Moi, ce qui me plaît assez, c'est que le fait d'éprouver du temps, parce que ça vous force, on peut passer devant une vidéo et... Ouais, c'est pas très grave que des gens parfois n'accrochent pas une vidéo et changent de salle, mais malgré tout, elle vous impose un minimum de temporalité, et il me semble que ça, invite les gens après à voir la peinture, la photographie différemment et à accorder du temps aussi. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui s'éprouvent dans le temps et elles vous disent aussi que les autres œuvres s'éprouvent fatalement dans le temps pour être expérimentées.
Oui, quoique quand Jean Corrade a commencé à acheter de la peinture contemporaine à Madrid, il passait des heures devant ses tableaux en train de fumer des clopes et de réfléchir et de regarder, d'entrer dedans. Et moi aussi, et les enfants aussi, enfin on a deux enfants, maintenant on a des petits-enfants, je veux dire, ils ont été élevés là-dedans et ça prenait du temps aussi. C'est vrai
pour
que
nous, ça prend du temps. Oui.
Voilà, la vidéo prend du temps parce que la temporalité est différente, mais en même temps, un tableau, ça peut vous absorber aussi.
Je me souviens d'une exposition de Guillaume Desanges, pareil vers 2004 ou 2005, où c'était dans le noir, il y avait un choix d'œuvres, c'était éteint, et les œuvres s'allumaient les unes après les autres, des peintures, tableaux, etc., photos. Et du coup, il avait imposé en tant que commissaire la temporalité de regard d'une œuvre, voilà, parmi d'autres.
On a eu cette exposition-là en Amérique.
Oui, à San Diego. En Californie, oui.
À San Diego.
On avait un commissaire d'exposition qui a décidé... Il n'avait pas beaucoup d'espace. Il avait trois salles. Et donc, il a décidé de grouper les vidéos par type. C'est-à-dire que vidéo avec un grand écran, projecteur, vidéo avec un petit écran, et par type. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'on entrait dans une salle et on voyait une vidéo. Après, il y avait une flèche qui disait... On passait à... Alors, on faisait trois fois le tour des salles. Et on voyait toute l'exposition. C'est incroyable.
On était obligé de tous les voir. Là.
Ah, il fallait tout voir. Hein.
Mais on a eu des petites aventures jolies quand même. On a eu deux expos au Pérou, par exemple. Et c'était en juillet, il faisait un peu chaud. Et c'était celle de Steve McQueen, je crois.
Non, Ta Citadine.
Oui, voilà, Ta Citadine.
Ouais.
Et c'est un film. Et alors, à un moment, ça ne marchait plus. Alors on nous a dit, non, il fait chaud. Le projecteur, la ventilation.
Il faut attendre une demi-heure que ça refroidisse. Ouais, ça, c'était au Pérou. C'était au Pérou, ça.
Ouais.
Ouais, c'était à Lima. On a eu, par exemple, en Chine, ça a été pire parce qu'en fait, ils ont reçu un truc qui ne marchait pas. C'était un film, ils ont reçu un projecteur qui ne marchait pas. Et donc, on leur a dit, il ne faut surtout pas montrer le film, autrement. Enfin, et donc, ils ont dû attendre que le projecteur vienne d'Europe pour pouvoir montrer le film. C'était un Ta Citadine aussi. Hein. C'est très compliqué de montrer des films dans les expositions. Et en fait, ils n'aiment pas tellement. Parce qu'il faut avoir, un technicien, il faut avoir tout un système qui permette de... Si ça tombe en panne ou si ou ça, enfin c'est très complexe. Et donc, en fait, toutes les expositions qu'on a pu faire, ils ont été assez réticents pour montrer du film.
Les films, oui, mais la vidéo, quand même, ça, c'est assez pratique parce que, mine de rien, il n'y a pas de douane, pas de transport, pas d'emballage.
Pas trop d'assurance.
Pas d'assurance. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain succès parce que, les musées sont à peu près équipés pour montrer des vidéos, mais... Sinon, ça leur coûte rien. On envoie ça.
Dans le temps, on envoyait des DVD par courrier, par DHL, tout ça. Maintenant, on envoie des liens par Internet. Alors, beaucoup plus simple.
Hein. Oui, je crois que la première fois que vous avez prêté Wallinger, c'était un DVD par Chronopost ou par FedEx.
Ouais.
Et que la seconde fois, c'était devenu un lien ou une clé.
Voilà, c'est un lien ou une clé USB. Oui. Enfin, c'est... Techniquement, je pense que... Enfin, les Anglais disent « When there is a will, there is a way ». Quand on veut, on peut trouver la façon de le faire. Et je pense que si on veut collectionner la vidéo, si on aime la vidéo, il y a des laboratoires, il y a des gens qui peuvent vous aider. Hein. C'est pas non plus, il ne faut pas exagérer. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide.
Peut-être que vous avez des questions, du coup. Où vous avez trouvé ça complètement normal et vous rêvez tous en collectionneur de vidéos. Moi, je me demandais quand même ce que ça faisait que de passer un temps assez conséquent. Vous passez, dans le bureau, on rigolait tout à l'heure parce que vous me disiez non, mais nous, on n'est pas des professionnels. Et moi, de mon point de vue, vous êtes devenus des professionnels de la collection de vidéos. Donc, c'est presque comme si vous étiez professionnel. Mais de passer autant de temps à amasser des œuvres au milieu d'autres collectionneurs que vous côtoyez, qui ne font pas la même chose, qui sont complètement immatériels.
Ouais, c'est une collection assez intellectuelle.
C'est vertigineux au bout d'un moment.
Ouais, ouais. Mais je rebondis sur ce que vous dites de collectionneurs qui achètent des vidéos et autre chose. Donc, je n'ai pas encore parlé. On a créé un festival aussi qui arrive cette année à la 11e année. Donc, on a fait 10 ans ce festival qui s'appelle Festival Vidéo Vidéo, qui était en Bourgogne jusqu'à maintenant. Et le propre de ce festival, c'était justement, pour ça que j'y pense, d'inviter des collectionneurs qui achètent des vidéos, mais contrairement à nous qui faisons que ça, achètent d'autres choses, comme vous avez vu dans cette exposition, il y a des vidéos et autres choses, et qui n'ont pas l'occasion, comme nous, de les montrer dans des expositions. Et en fait, ils étaient super contents qu'on les invite, donc on a fait ça pendant 10 ans, parce que même si c'était un petit public, on avait entre 50 et 80 personnes, ça durait 2 jours, mais ils pouvaient partager leur choix. Voilà. Alors, on est arrivé à la 10e année en juillet dernier en Bourgogne, où on a une maison. J'ai dit, j'arrête. Voilà, il faut faire comme Antoine de Galbert, sans faire de comparaison. Il faut arrêter quand ça se passe bien. C'était justement Mark Wallinger, parce qu'on invitait des collectionneurs, mais des artistes, bien sûr, à montrer leur travail. C'était Mark Wallinger avec Omer Fass, les deux invités guest stars, comme je disais. Je ne peux pas faire mieux, j'arrête. Bon. Et puis, le lendemain, ça durait 2 jours, j'ai une petite dame formidable qui vient me proposer un lieu à Paris. Donc, pour ceux qui ne pouvaient pas venir en Bourgogne ou qui ne connaissaient pas, cette année, en juillet, juste avant le 14 juillet, c'est toujours la même date, ce sera à Paris. Voilà. Donc, si vous avez envie, j'envoie, vous pouvez avoir le renseignement par ici et vous aurez le festival vidéo-vidéo à Paris cette année. On continue, j'ai pas pu arrêter.
En déplaçant simplement, ça se renouvelle.
Ça dure 2 jours, enfin 1 jour et demi là à Paris.
Il y a aussi le Frénois qui vient pour montrer une sélection de.
Oui, alors on invite des collectionneurs, des artistes et puis des institutions. Donc il y a le Frénois tous les ans. Cette année, on va inviter Loupe. On a très souvent une programmation faite à Art Paris par Guillaume Piens et on fait une sélection dedans. Voilà, on invite. Ça va durer 1 jour et demi.
Alors la question qu'ils vont pas poser, mais ils voudraient bien poser,
c'est de savoir. Il y a des mains qui se lèvent, regardez.
C'est de savoir comment on vit avec les artistes. Parce qu'en fait, si vous voulez, la première chose, c'est qu'on choisit toujours une œuvre parce qu'on aime l'œuvre. Mais on connaît pas l'artiste. On choisit une œuvre. On ne choisit pas l'artiste. Bon. Mais la deuxième chose, c'est que quand on a une œuvre d'un jeune du Frénois, d'Enrique, etc., ces gens-là, on les voit. Ils viennent à la maison. Ils viennent même manger du cassoulet à la maison. Vous voyez ? Et on a des dîners avec plein de jeunes artistes et ça crée une ambiance. Et, enfin, on veut suivre, on veut les suivre, mais en même temps, on a cette relation, cette très bonne relation avec eux.
C'est ça. C'est que même si vous continuez pas la collection en profondeur, c'est des gens que vous soutenez encore et que vous suivez.
Ouais,
c'est ça qui est important de dire.
Oui, bien sûr. Non, je crois qu'on a eu ce cas-là. Je crois que c'était une vidéo qui devait être présentée. Oui, c'est Clément Cogitor d'ailleurs qui montrait ici. Ça devait être montré dans 2 endroits différents en même temps. Et la galerie a dit que c'était pas possible. Donc on a dû choisir un endroit et puis voilà. C'est en même temps. Hein.
C'est assez intéressant parce que matériellement on peut la montrer à 2 endroits différents.
Bien sûr.
Je trouve ça assez beau de penser qu'on va choisir un endroit dans lequel c'est montré et qu'elle n'existera pas ailleurs en même
voilà.
temps.
Voilà.
D'ailleurs. On l'avait prêtée à la DIAF en Chine et du coup, on n'a pas pu la montrer ailleurs parce qu'elle tournait en Chine pendant un moment.
Par contre, ailleurs, on a trouvé un autre artiste. C'était celui qui faisait les danses, un type du Frénois. Fabien Giraud. On a trouvé Fabien Giraud et qui fait un truc similaire, mais pas du tout, pas la même chose. Et donc, on l'a montré dans l'autre endroit.
Voilà. On en a choisi une autre, en fait.
qui pouvait être dans le même type de propos.
Voilà, voilà, tout ça.
Vous, est-ce que vous souhaiteriez en fait que les vidéos puissent être diffusées à différents endroits au même moment, ou c'est vraiment les lieux à chaque fois d'exposition qui demandent une exclusivité?
C'est-à-dire que c'est pas tellement ça, c'est que les commissaires d'exposition, ils vont pas choisir la même vidéo pour différents musées. Hein. Les commissaires d'exposition, chaque fois qu'on a une exposition que ce soit Tel Aviv ou Séoul, etc., les commissaires choisissent des œuvres assez différentes. Hein. Ben oui, ils choisissent par rapport à leur propre vue, vision des choses. Donc, c'est rare qu'on ait une interférence. En plus, les expositions n'ont pas lieu au même moment, deux expositions au même moment. Hein. Non, on n'a pas ça. Mais c'est plutôt les commissaires qui disent ça, et puis les galeries. Hein, les galeries, elles ont leur mot à dire.
Oui, bonsoir. Je me demandais, en fait, quand vous achetez une vidéo, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce que c'est juste un échange? Je suppose que ce n'est pas juste un échange de fichiers contre de l'argent.
Non, non. En fait, les règles pour acheter les vidéos, ça a été préparé à un moment donné par écrit par la Tête Moderne avec la collection Kramlich ou la Fondation Kramlich, je crois, et le MoMA. Deux musées et une collection très importante. Ils ont écrit un texte que j'ai corrigé d'ailleurs. Enfin, j'étais correcteur, j'étais un des correcteurs. Et ce texte a été publié, il est toujours publié sur le site internet de la Tête Moderne. Et en fait, ça explique ce qu'on doit faire quand on achète une vidéo, et ils expliquent aussi comment conserver la vidéo. Mais je vais vous le dire en deux mots, parce que c'est trop facile de dire allez regarder sur l'internet de la Tête et puis basta. Hein. Non, en fait, quand vous achetez une vidéo, vous avez une facture. Et en France, la facture, c'est très... Vous savez, la loi française est très stricte sur les questions de documents, et la facture, ça compte. Vous avez la facture, vous avez un certificat d'authenticité qui est signé par l'artiste. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui veulent avoir une cession des droits à titre gratuit, c'est-à-dire pour montrer la vidéo quand ils veulent, etc. Bon, moi, je trouve que c'est une erreur parce que, je vais le dire en quelques mots, c'est une erreur parce que si vous voulez, si vous avez cette cession de droit à titre gratuit, c'est un chèque en blanc qui est donné au collectionneur. C'est-à-dire qu'en fait, vous, en tant que collectionneur, vous pouvez aller montrer la vidéo dans un garage. L'artiste a signé, donc vous pouvez faire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la meilleure façon pour respecter l'artiste et l'œuvre, c'est... Oui, mais si on s'approche trop, ça fait du... Et c'est de... Chaque fois qu'on fait une exposition, on demande à la galerie ou à l'artiste l'autorisation de montrer dans tel lieu et comment il faut montrer la vidéo. Et si... La galerie, l'artiste dit non, c'est non. Et si le lieu ne respecte pas les exigences de monstration, enfin de comment montrer, on ne montre pas l'œuvre. Enfin, on refuse de montrer l'œuvre. Il faut quand même protéger l'artiste. Hein. Parce que je vais vous dire une chose. Quand une galerie vous vend une vidéo, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire... Voilà le bébé, débrouillez-vous. C'est comme ça. Ils ne vont pas vous accompagner, non, pas du tout. C'est vous qui devez vous occuper du bébé. Voilà. Donc on a une grosse responsabilité, mais il faut protéger l'artiste et l'œuvre.
Mais parfois les galeries savent pas du tout comment marche la vidéo, hein, d'ailleurs. Je dis parfois les galeries savent absolument pas comment marche la vidéo, c'est toujours très, très compliqué, quoi.
Ça dépend des galeries.
Oui, ils ont fait des efforts aujourd'hui.
Ça dépend des galeries. Et puis, une autre chose, c'est que quand vous achetez une vidéo à une galerie, ça prend beaucoup de temps pour la voir. Parce qu'en fait, il faut qu'ils demandent le certificat à l'artiste. Si l'artiste vit à l'étranger, etc., c'est toujours assez... Enfin bon, il ne faut pas en faire une histoire. Hein.
Merci. Et je voulais demander aussi, généralement en termes de nombre d'exemplaires d'une vidéo par rapport aux photos, par exemple.
Les vidéos sont... Il y a différentes... En fait, c'est un truc économique, ça. Je suis sûr que le galeriste avec l'artiste, ils font des calculs pour voir comment ils peuvent amortir la situation, le coût. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des vidéos qui sont publiées en 3, en 5, en 7 et en 10. Et il y a même des gens, parce qu'il y a des nostalgiques de la peinture, des nostalgiques, enfin ceux qui sont attachés à la peinture et aux œuvres uniques. Bon, il y a des artistes qui font rarement, mais qui font quand même une vidéo en un exemplaire ou trois. Vous voyez ? Mais, vous savez, Yan Fudong, qui est un artiste très important en Chine, il fait des vidéos en 10. Hein. Alors, bon, c'est du 35 mm, donc ça a dû lui coûter cher de faire le film. Hein.
Merci.
Non. Il n'y a pas une Peut-être. Question qui vous brûle ?
Allez-y. Peut-être hein. les prix de la vidéo aujourd'hui ? Par exemple, parce que on accepte d'acheter une œuvre qui n'est pas unique, comme pour la photographie, qui est dématérialisée, et les gens parfois n'ont pas idée de ce que peut coûter une vidéo d'artiste.
Bon, c'est une question difficile, parce qu'en fait, si vous voulez, les prix souvent sont le reflet de la demande. C'est bien d'accord. Si tout le monde veut acheter cette œuvre d'un artiste, il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter, automatiquement... Bon, il y a deux choses. Premièrement, il y a des galeries qui pratiquent la méthode américaine ou les escaliers, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la première vidéo vaut tant, la deuxième vidéo vaut plus cher, la troisième vidéo encore plus cher, et sur les cinq, ça augmente chaque fois. C'est pour, à mon avis, c'est pour forcer les collectionneurs à acheter tout de suite.
Oui.
Moi, je suis contre cette méthode, je trouve que ce n'est pas correct. Hein. Par contre, il y a des galeries qui ont. C'est un peu plus. Enfin, qui font les trois premières au même prix, et puis alors les dernières, parce qu'elles ont la rareté, un peu plus chères. C'est ça. Mais les prix, si vous voulez. Bon, les prix, ça varie. Si vous achetez un artiste hyper connu, hyper consacré, aujourd'hui, si vous voulez acheter une vidéo de Steve McQueen. Je ne sais pas s'ils l'ont fait encore, mais enfin, de Steve McQueen, vous allez payer un bonbon, hein, ça va vous coûter cher. Ou même d'artistes comme. Enfin, des artistes très, très connus, très établis. C'est très cher parce que le marché met des prix pour ces gens-là. Mais si vous achetez un jeune artiste qui vient de sortir d'une école, c'est vrai que les prix ont augmenté, mais enfin, quand même, c'est encore abordable. Vous voyez ? Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires là-dessus, mais...
Oui, j'ai coupé la parole à quelqu'un, non ? Il y a quelqu'un qui voulait poser une question ? Oui.
Ça, c'est une super question. Actuellement, il n'y a pratiquement pas de marché secondaire de la vidéo. C'est ça qui tracasse un peu les collectionneurs. Les collectionneurs qui voudraient éventuellement acheter de la vidéo, ils se posent toujours la question, est-ce qu'il y a un marché secondaire ? Non, il n'y a pas de marché secondaire.
Mais en même temps, il faut des fous comme nous pour y croire, pour porter la vidéo, parce que qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un tout petit mécénat. Quand on achète une vidéo, ça permet à l'artiste d'en faire une autre après, et on y croit, bon, et puis on verra après. Si on s'était posé cette question-là, c'était d'ailleurs une très bonne question, on n'aurait pas fait de collection de vidéos. Et il y a quand même beaucoup d'institutions qui achètent la vidéo, puisque nous, on fait partie de commissions de musées depuis très longtemps. Donc, par exemple, Frac Paca, mon mari a fait 8 ans et moi, je lui succède, là. J'en parle parce que vous nous avez accueillis en novembre. Ils ont une collection de vidéos qui est la plus importante des Fracs en France. Et on continue à en acheter. Voilà.
La vidéo, au départ, pour vous, parce qu'on parle de marché secondaire et autre chose, mais en tout cas, telle qu'elle a été inventée, a été d'abord achetée par des institutions. Il a fallu même parfois créer des institutions. Je pense à The Kitchen à New York, qui a été une des premières institutions fondées par un couple pour accueillir les propositions de vidéos et les montrer à un moment où on ne pensait pas que ça pouvait se montrer. Les institutions ont joué un grand rôle dans l'achat des vidéos et c'est ensuite s'est posé la question de comment des collectionneurs privés vont acheter. Alors il y a plein de truchements qui ont été trouvés, et c'est vrai qu'il y a des moments dans les foires qui sont un peu un bon révélateur du marché. Je me souviens à la FIAC ou à Frise, où il y a des années, il y a 10, 12 ans, où il y avait des vidéos. Il y a 10 ans, on voyait toujours des vidéos.
Ça s'appelait Vidéocube. Ouais. On a été dans le jury, c'était en 2000.
Et depuis quelques années, quand on est à la FIAC, je crois que cette année, je n'ai pas vu une vidéo.
Si, il y en a. Il y en a quand on cherche, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais comme vous disiez très justement tout à l'heure, le marché étant mauvais, bah les galeries et les espaces sont chers. Les galeries, il faut qu'elles vendent, donc elles mettent des trucs faciles en ce moment. Mais il y a Loop et d'autres foires qui se créent d'ailleurs, parce qu'il y en a une qui s'est créée à Nice et il y en a une autre qui va commencer à Lille à partir du 1er octobre. Donc il y a des foires, il y a plus de foires qui se créent, donc c'est bon signe. Et voilà, il faut soutenir les artistes qui font de la vidéo, c'est surtout ça.
Ce qui est très intéressant par rapport à votre question, c'est que dans les années 60, en fait, les artistes n'ont pas fait de vidéos en série illimitée, c'est-à-dire en 5, etc. Ils étaient illimités. Parce qu'à l'époque, les artistes ne voulaient pas se mettre dans une optique capitaliste, une optique de fric, etc. Et ils ont fait de l'illimité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner sa vie. Puisque, je veux dire, parce qu'un artiste, il faut quand même qu'il puisse se nourrir, vivre, etc. Quoi. Enfin, produire pour gagner sa vie. Alors du coup, ils se sont mis avec des galeries. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une galerie, c'était dans le journal, alors ça, je peux me dire son nom, c'est Zwirner, qui est une galerie importante à Paris, enfin à New York, et qui a fait une exposition qu'avec des jeunes. D'accord ? Et des vidéos qui valaient $250, ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que l'exposition, ils n'ont pratiquement pas vendu, ils n'ont rien vendu. Par contre, il y avait une liste d'attente de je ne sais pas combien de gens pour un artiste qui vendait, un artiste établi, hein, qui vendait des vidéos à $150,000. Donc, vous voyez, il y a l'histoire de et puis alors il y a un autre aspect qui est intéressant que personne n'a posé, mais c'est l'histoire de l'internet. Parce qu'il y a des artistes qui veulent aller sur l'internet pour diffuser, être connus, etc. À mon avis, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien quand on est dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure de muséale et autres, etc. Et que pour les enseignants, les étudiants, pour toutes sortes de gens qui s'intéressent aux vidéos, c'est bien de pouvoir regarder des vidéos sur Internet. Voyez. Alors que, si vous voulez, l'autre inconvénient, c'est que l'Internet, on y rentre, on ne sait pas où on sort. Et je pense que si... je ne pense pas qu'on gagne beaucoup de choses à mettre une vidéo sur Internet. Voilà. YouTube... Je sais pas, moi je suis pas très fanard.
Bah c'est compliqué parce que autant on sait qu'une peinture sur Internet elle est mauvaise, voilà. Mais la vidéo sur Internet elle ressemble à un produit fini. Donc on a l'espèce d'illusion de ce qu'elle est alors qu'elle n'est pas ça, puisque on aurait vu ne serait-ce que la première vidéo d'Enrique Ramirez sur Internet ou un écran et la voir ici, et l'expérience est complètement et à 100 000 lieues de la réalité de l'œuvre. Voilà. Donc c'est comme un grand film, c'est comme tout ça. Ces médias permettent de diffuser, mais ils ne permettent pas de conserver l'expérience. Voilà. Non, donc c'est du document plus que de l'expérience.
Voilà, on avait pensé pour conclure.
Est-ce qu'on a répondu à votre question ?
On avait pensé pour conclure pendant qu'on se disperse, mettre la vidéo de Maudit Saken que vous voyez dans l'exposition que Philippe, allez-y, je crois, a préparée. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez le temps de revoir l'expo avec spécialement les vidéos, en pensant qu'il y en a pas mal que...